tous les vampires et à toutes les ghouls. Vous êtes bien sur Canal B 94 FM et vous écoutez l'émission Musique.fm, votre émission bimensuelle qui s'intéresse à la musique de jeux vidéo. À la présentation, donc il y a moi, Benjamin, et je suis en compagnie de Alexis. Salut Alexis.
Salut Benjamin.
Ça va ?
Bah écoute, ça va. Je porte encore en moi les signes de fatigue du week-end dernier, du Stunfest.
Il s'est passé pas mal de trucs, ouais.
Il s'est passé pas mal de choses, on en reparlera sûrement à la fin de l'émission.
On va en parler, c'est sûr, mais donc c'est notre deuxième émission. Mm-hmm. Et pour notre deuxième émission, c'est déjà un numéro spécial. Alors déjà, merci aux personnes qui ont écouté la première, hein. Merci pour votre fidélité, c'est trop super. Et pour les autres, musique.fm, c'est donc des mix de musique de jeux vidéo. On en discute ensemble, on vous raconte des anecdotes, on vous explique pourquoi on a passé ces sons-là. Et en fin d'émission, il y aura une partie un peu plus actualité, on va dire, avec un focus sur des artistes qui ont cet héritage de musique de jeux vidéo, comme nous, car nous sommes musiciens. Alexis Lumière, Benjamin Mout. Et parce que voilà, musique.fm, c'est l'extension radiophonique du label Rennais Musique.exe, fondée par Alexis et dans lequel on est tous les deux. Et donc ce sera l'occasion de vous parler des actualités du label, des sorties et d'autres événements spéciaux comme on va en parler à la fin de l'émission. Et donc comme je vous disais, la deuxième émission c'est déjà un numéro spécial parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est Halloween très bientôt. Et donc le jeu vidéo est quand même extrêmement fourni en éléments horrifiques parce que l'horreur et le jeu vidéo ça se marie quand même assez bien. Et donc ça aurait été dommage de ne pas vous passer un petit peu de son pour accompagner cette ambiance. D'ailleurs, en intro, pour se mettre dans le bain, on s'écoute là le très célèbre thème de Tristram dans Diablo composé par Matt Wellman. Alexis, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec l'horreur ou les jeux vidéo d'horreur ?
Mais oui, tout à fait. Bah, en commençant avec Diablo, c'est pas un jeu qui m'a fait très peur. Enfin, pour situer un peu pour ceux et celles qui écoutent, Diablo, c'est un jeu qui est très célèbre de la fin des années 90, je crois que c'est 97, qui est sorti chez Blizzard, donc un éditeur de jeux qui est quand même super connu aujourd'hui, qui a quand même lancé les franchises Warcraft, notamment Starcraft. Ouais. Voilà, c'est fat, c'est énorme. Et Diablo, donc, c'est un jeu qui a lancé le hack and slash. Donc, c'est un jeu qui se joue à la souris et en gros, on a un personnage qu'on contrôle uniquement à la souris. Il suffit de cliquer sur des destinations ou sur des ennemis qu'on veut slasher à coup d'épée, à coup d'arc.
On slash beaucoup d'ennemis dans le jeu.
On slash beaucoup d'ennemis. Et on meurt beaucoup dans le jeu, oui. Et on rencontre énormément de créatures. Et il y a une ambiance gothique qui est vraiment hyper réussie pour l'époque. Enfin, c'est un jeu qui m'a laissé énormément de souvenirs d'une ambiance très particulière. La musique joue énormément. Joue un rôle énorme en fait dans cette ambiance. Bah, je trouve que cette intro là qui d'émission elle parle d'elle-même. Hein. C'est cette douce corde en arpège avec ces ambiances un peu mystérieuses derrière.
C'est trop beau
et voilà, ça accompagne donc le héros ou l'héroïne qu'on choisit au début de l'aventure pour aller auxir une tonne de monstres dans les donjons. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne introduction, ouais, parce que c'est. Je trouve qu'il y a rarement un jeu à mélanger autant cette ambiance gothique, horrifique. Avec un gameplay, avec le jeu, quoi. Et après ma relation
peur,
avec l'horreur. Ouais, en fait, ça faisait peur. Mais,
c'était sombre, quoi.
C'était sombre. Voilà, ça mettait dans l'ambiance. Mm. Après, moi, je pense. Enfin, personnellement, moi, le jeu qui m'a vraiment terrorisé, c'est Resident Evil 1.
Évidemment.
Voilà. Pareil, on est dans les années 90, sur PlayStation 1. Pour ma part, je sais plus s'il était sorti ou pas sur d'autres plateformes. Enfin, Saturn, peut-être.
Peut-être Saturn, ouais. Ouais. Mais possible. En version un peu moins bien.
Et Resident Evil, c'est une franchise énormissime aujourd'hui, qui s'est étendue au cinéma, bon, avec des films, je sais pas.
Qui n'ont pas grand-chose à voir au final avec les jeux, quoi.
Ouais, voilà, il y a eu même une série, enfin bref, il y a eu plein de trucs. Et Resident Evil, ouais, en gros, c'est un jeu révolutionnaire qui se jouait un peu comme Tomb Raider, enfin à la troisième personne, et on évoluait dans une espèce de manoir dans le premier. Il y avait des zombies, des chiens, il y avait un peu tout le bestiaire, un peu. Enfin, non, il n'y avait pas tous les vampires et tout ça, mais c'était très zombies, armes bactériologiques, mutations. Et ça faisait vraiment flipper parce qu'il y avait un énorme aspect cinématographique surtout.
Avec les plans de caméra fixes qui apportaient de la tension parce qu'on voyait, vu que la caméra bougeait pas, on voyait pas ce qui pouvait se cacher au détour d'un couloir.
Il y a ce moment célèbre, je sais pas si tu te rappelles, qui est hyper connu, tu marches dans un couloir et t'as les chiens qui traversent les fenêtres. Oui. Ça c'est... Oh c'était, et les premières apparitions du zombie qui se retourne. Que tu vois ce zombie, tu sais pas que c'est un zombie, il est accroupi, il mange quelqu'un, et quand t'arrives dans la salle, t'as une cinématique où tu le vois, il se retourne et tu vois que son visage est fait flipper, il est décomposé.
C'est devenu
quoi.
Un moment vraiment mythique du jeu vidéo.
Et l'intro filmée avec des acteurs et des actrices.
D'ailleurs, je vais parler de. Enfin bref, dans les jeux que je vais présenter, il y aura des jeux avec des acteurs et actrices filmés.
Ah, cool.
Ça, c'était un délire des années 90 quand même.
Hâte de t'entendre parler de ça. Voilà, mon rapport, c'est ça surtout. Je pense que c'est Resident Evil en tout cas qui m'a marqué aujourd'hui le plus. Après, il y a eu d'autres jeux, genre Blood, qui est un gros shooter bourrin dans la lignée de Duke Nukem et tout ça, et qui avait une ambiance super, pareil, goth, un peu dégueu, bien ténébreuse. Et qui me faisait pas peur, mais qui me dérangeait un peu quand même.
C'est vrai que c'était un peu perturbant, Blood. Moi, vite fait, pour mon rapport à l'horreur, je suis un énorme consommateur de films d'horreur. Hein, je regarde pratiquement que des films d'horreur, j'avoue. j'aime beaucoup le gore. Je suis un peu déçu, par exemple, dans les films, quand il y a un peu trop de suggestions. Enfin, je comprends la démarche, mais j'aime bien quand on me montre un peu les choses, quand il y a des effets spéciaux pratiques, des marionnettes, des maquillages et tout. Et vis-à-vis, et mon rapport aux jeux vidéo d'horreur, vu que j'adore l'horreur en règle générale, on pourrait croire que j'y joue beaucoup, mais en fait, j'ai pas énormément joué aux jeux vidéo d'horreur parce que ça me faisait très peur. Je trouve que être acteur de ces histoires, ça fait peur. Et donc, je passais rarement un bon moment.
À fond.
En jouant des jeux vidéo d'horreur, j'étais plutôt en train de chercher le prochain checkpoint pour pouvoir arrêter de jouer parce que c'est trop pénible.
Est-ce que t'as fait comme moi, par exemple, Resident Evil 1, je l'avais acheté sur PS1. Et je me rappelle, il venait de sortir, c'était genre tout le monde attendait ce jeu.
Ouais.
Et j'avais économisé, j'étais allé avec un pote l'acheter au truc à côté de chez moi, quoi. Genre, ouais, j'ai acheté Resident Evil 1. Et j'ai joué avec mon pote. Et en fait, quand mon pote il est parti, j'osais pas du tout jouer au jeu.
Oui.
Et en fait, j'y jouais que quand mon pote était là.
Ça, c'est ça. Mais c'est des jeux qui se partagent un peu. Ouais, je vais en parler un petit peu plus tard. Ce côté de regarder son pote jouer, c'est assez, assez relié au jeu d'horreur. Et aussi, je voulais te dire que le jeu d'horreur, on a tendance à le résumer au survival horror, donc le style de Resident Evil, mais l'horreur peut aussi prendre d'autres styles, dans d'autres styles de jeux vidéo.
Mm-hmm.
Et donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des casse-briques horrifiques, ce serait peut-être...
Bah après oui, dans le thème de l'horreur, t'as eu 10 000 trucs, même les platformers genre Ghouls and Goblins, tu sais, sur les premières consoles,
c'est ça.
T'avais tout le bestiaire déjà du fantastique. Bon, évidemment, dans les musiques qu'on va vous passer, il y a des franchises énormément classiques, genre Castlevania, qui est quand même, je trouve, un des représentants les plus puissants de cet univers. Mais bon, il n'y a pas que lui, mais on pourra citer Silent Hill aussi, qui a laissé énormément qui a traumatisé beaucoup de gens.
Carrément, ouais.
Carrément, mais ouais, c'est lié aux jeux vidéo, de toute façon, depuis extrêmement longtemps, quoi. De toute façon, le jeu est vachement lié au cinéma aussi, donc.
Voilà.
Voilà, oui, dans les tout premiers jeux, même qui étaient. Ouais, voilà. Même dans les jeux les plus, j'allais dire primitifs, mais c'est pas forcément le thème, mais dans les tout premiers jeux où on voyait pas grand-chose à l'écran, il y avait déjà des thèmes un peu de suspense.
De jouer avec de l'horreur, ouais, exactement.
Absolument.
Donc, je vais passer du son.
Bah écoute, je crois qu'il est temps d'aborder cette partie fondamentale de notre émission, Benjamin.
C'est parti pour la musique. Et vous êtes bien sur 94 FM Canal B, l'émission musique.fm, et on vient de s'écouter quelques petits sons tirés de jeux vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que je vous ai passé. En premier, il y avait un morceau du jeu DuckTales, sorti en 89 sur NES.
Oui.
Ça c'est trop bien, et c'était le morceau du niveau Transylvanie. Donc la BO a été composée par Hiroshige Tonomura. Ensuite, on a eu un son du jeu Clock Tower, sorti en 95 sur Super Nintendo. Le morceau Kérosène, composé par Kuji Nikura. On a eu un petit bout de Sanitarium, sorti en 98 sur PC. Le morceau Jedha's Pumpkin Patch, composé par Stephen Bennett et Jamie McMenemy. Et ensuite, on a eu pas mal de morceaux. On a eu un petit bout de Harvester, sorti en 96 sur PC, le morceau Grave de Hamilton Altstadt. Et ensuite, on a eu des petits bouts de Silent Hill, sorti en 99, le premier Silent Hill sur PlayStation. Les morceaux étaient composés par Akira Yamaoka. Donc déjà, je tiens à dire que je suis très content de passer un morceau du jeu DuckTales qui ne soit pas le Moon Theme, le célèbre Moon Theme. Est-ce que tu connais le Moon Theme, Alexis ?
Je le prends personnellement, Benjamin. Ouais, oui, pour l'anecdote, le Moon Theme de en fait, DuckTales, déjà, ouais, pour situer, enfin, je me permets de le situer, tu allais peut-être y venir aussi après, mais c'est un jeu basé sur les aventures de Picsou.
Exact.
Voilà, donc on incarne Picsou dans un jeu de plateforme qui est mythique. Et le Moon Theme, c'est un thème du niveau de la Lune. Donc, il y a un niveau qu'on peut sélectionner où on se balade sur la Lune, quoi, en gros. Et la musique est. Bon, voilà, bon, quand on s'intéresse un peu à la musique de jeu, voilà, c'est un classique.
C'est un grand classique.
C'est un peu comme, je dirais pas les Ramones pour le punk, mais voilà, presque. Mario, ouais. Je dirais que le thème de Mario, quand même, est le plus iconique. Mais DuckTales, il arrive quand même pas loin derrière. Et Moon Theme, il est voilà, mythique. Et oui, c'est un petit thème que je joue en live, donc d'où la petite pique de Benjamin.
Exactement.
Mais je ne le prends pas mal.
Non, c'est pas un pic du tout. J'adore le Moon Theme, il est exceptionnel. Mais c'est vrai que toute la BO du jeu, je la trouve tellement bien. Et le thème de la Transylvanie, moi, je le trouve vraiment chouette.
Il est top, en effet. Très
et
cool.
Donc, j'ai passé des sons de. Là, en dernier, il y avait les sons de Silent Hill, un peu bruitiste, industriel, très caractéristique de Silent Hill. Bon, je ne vais pas représenter tout Silent Hill parce que c'est quand même très connu. Mais je tiens à dire que pour moi, ça me rappelle mes grands moments PlayStation, à savoir pendant les vacances, avec mes cousins, on se butait sur la PlayStation. C'était des moments. Que je garde bien en mémoire et qui était vraiment trop chouette. Et c'était typiquement le genre de moment où t'as les parents qui te disent « Mais vous voulez pas sortir un peu là ? Arrêtez de rester sur votre console, enfin !» Et on était genre « Mais oui, bon !» Et donc, on sortait quand même, hein, mais on jouait pas mal. Et il y avait ce syndrome dans... Donc, j'avais chopé Silent Hill pendant des vacances. Et il y avait ce syndrome de « Vas-y, je te regarde jouer !» Et il y avait ce truc dont tu parlais tout à l'heure, de jouer avec quelqu'un. Parce que les jeux d'horreur, ça faisait peur, en fait.
À Silent Hill,
C'était assez chaud, ouais.
Il faut s'imaginer. Enfin, moi, j'ai jamais eu le jeu, mais pareil, je regardais un pote qui jouait.
Oui.
Comme on disait tout à l'heure, évidemment. Et ouais, c'est vrai que le début, c'est vraiment une espèce de petite ville déserte avec une brume. Tu vois pas à 2 mètres, et tout peut arriver avec la musique et tout.
Le début du jeu, il est assez traumatisant.
C'est une expérience, ouais.
Le premier Silent Hill. Et je pense que d'ailleurs, le syndrome, je te regarde jouer, je viens d'y penser, mais je crois que c'est un truc qui se développe pas mal aujourd'hui avec le streaming, quoi. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui regardent des gens jouer parce qu'ils osent pas forcément jouer à des jeux d'horreur, mais ils aiment bien quand même, ils ont la curiosité de voir, de voir les autres jouer.
On s'implique moins. C'est plus simple.
Et donc voilà, Silent Hill, incroyable, c'est avec la dimension horreur psychologique en plus, enfin bref, c'était très cool. Et aussi, alors je voulais profiter de ce petit mix pour vous présenter deux jeux qui ne sont du coup pas des survival horror, mais qui sont des jeux horrifiques. Donc il y avait Harvester, qui est donc un point and click, qui est très très particulier. Donc visuellement, c'est du full motion vidéo, FMV. C'est-à-dire que les graphismes, c'est des acteurs, des acteurs et des actrices qui ont été filmés sur fond vert dans des décors faits en 3D précalculés. Donc visuellement, c'est déjà très crado. C'est vraiment, c'est très spécial. C'est une espèce de vomi de pixels qui met dans une ambiance. C'est compliqué. Mais c'est un jeu vraiment, vraiment de gros sale gosse parce que je crois que c'est un jeu qui coche tous les trigger warnings possibles et imaginables. C'est un espèce de défouloir avec un humour très 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 noir, très acide. Et avec un gros côté très anti rêve américain, parce que tout se passe dans une espèce de petite ville américaine typique un peu des années 50, mais qui se transforme en, en rêve fiévreux, horrible, où tous les personnages sont affreux, et le jeu te pousse en plus à être un horrible personnage de par les énigmes. Donc c'est quand même un sacré délire.
Ah, ça fait, ça donne envie. Ça, non mais c'est vrai.
je vous conseille, en tout cas peut-être pas d'y jouer parce que ça a quand même un peu vieilli, mais mater 2-3 images parce que c'est vraiment une œuvre très particulière. Et j'ai également passé un petit son du jeu Sanitarium. Là par contre je pense que c'est possible d'y jouer encore aujourd'hui parce que je le trouve encore très beau.
J'avais peut-être fait la démo moi je pense à l'époque.
Ah ouais.
C'est vu de dessus, c'est en isométrique
c'est
là.
C'est ça, ouais. C'est un point and click
un
aussi.
Un peu comme Planescape Torment et trucs comme ça là.
Exact, ouais. Et mais plus, ouais, c'est un vrai point and click dans un univers très cauchemardesque. Et en fait, pour la petite anecdote, moi j'ai entendu parler de ce jeu parce que j'avais vu un reportage à la télé qui parlait des jeux interdits.
Ah.
Et donc du coup, il y a eu un espèce d'effet Barbara Streisand qui fait qu'en gros, j'aurais jamais entendu parler de ce jeu si la télé n'avait pas dit « Attention, c'est un jeu horrible, il faut pas y jouer ». Donc j'ai voulu le choper. Et en gros, juste pour vous décrire un petit peu le début du jeu, c'est... Alors Sanitarium, c'est un jeu très très riche. Hein. Il y a une dimension psychologique extrêmement poussée. C'est vraiment une œuvre très à part et très particulière, au-delà de son côté trash. Mais l'une des premières énigmes du jeu... en gros, tu atterris dans un village avec des enfants, uniquement des enfants et pas d'adultes. Et les enfants sont quand même assez... c'est des enfants mutants, on va dire. Ils ont quand même des espèces de déformations assez inquiétantes. Et les enfants te proposent un jeu très cool, de faire un petit cache-cache avec eux quand tu arrives dans le village. Donc c'est très cool, c'est bon enfant. Et le jeu se transforme en espèce de Où est Charlie, où tu dois parcourir la map et trouver les enfants les uns après les autres. Et les enfants te disent toujours « Mais de toute façon, le dernier, tu le trouveras jamais. Driscoll, tu le trouveras jamais, tu le trouveras jamais. » Et en effet, tu parcours la map en long, en large et en travers, et impossible de le trouver. Et au final, tu te balades dans le cimetière et tu te rends compte que, tiens, il y a une tombe qui porte le nom Driscoll. Et disons que les enfants ont voulu te faire une sacrée bonne blague, parce que pour trouver Driscoll, t'es obligé d'aller chercher ta pelle et déterrer un enfant mort. Donc je comprends un petit peu les gens qui étaient un peu choqués, parce que ça, c'est vraiment les 15 premières minutes du jeu.
Aïe. Ça promet pour la suite. Tu l'as fini le jeu ou pas? Tu te rappelles?
Ouais, je l'ai fait. À l'époque, je le faisais et j'avais ce côté, je me sentais un peu sale. Je sais pas, il y avait un côté très cracra dans le jeu, mais bon, qui me passionnait pas mal. Et vraiment, ouais, Sanitarium... Si vous ne connaissez pas ce jeu, il est quand même assez culte aujourd'hui, mais si vous pouvez regarder 2-3 images, c'est,
d'ailleurs,
c'est assez exceptionnel.
Dans le thème de creuser des tombes, ça me rappelle deux...
Un sacré thème.
Ouais. Le prochain thème de l'émission. Je crois qu'il y a une énigme de Monkey Island 2 où tu dois faire ça, non? Creuser dans... Récupérer un squelette.
Des squelettes,
creuser quelque chose. Et aussi, ça m'appelle Fallout 2. Excellent jeu de rôle post-apocalyptique où il faut, on n'est pas obligé, mais on peut, si on veut, déterrer des...
On a ce genre de choix, ouais.
Des cadavres pour chourer des trucs au corps gisant sous la terre, mais après on...
Un peu à la Ed Gein.
Les conséquences sont... Ouais, exactement aussi. Bon, bah voilà, c'est une vraie émission d'Halloween, tout ça.
Exactement.
T'as d'autres tracks à nous passer ou tu veux encore...
Moi, je vais vous repasser deux petits morceaux. Et on se retrouve juste après, et après tu nous feras un petit mix. Vous écoutez toujours 94 FM sur Canal B, l'émission musique.fm. Et on vient de s'écouter deux morceaux. Donc un du jeu World of Horror, sorti en 2023. La musique a été composée par Sébastien Zibowski et Joseph Bailey. Il est sorti sur beaucoup de plateformes différentes. Et ensuite, on a écouté un morceau du jeu Look Outside, sorti en 2025. Le morceau Eviction, composé par Eric Schumacher. Et c'est sorti sur PC, édité par Devolver. Et voilà. Et donc,
merci pour ces petites découvertes. Très, très bon.
C'est deux jeux indés. Excellent. Qui sont vraiment, vraiment très, très stylés.
J'aime bien parce qu'il y a vraiment le mélange du rétro, vraiment, hein, de chiptunesque sur les bords, un peu Mega Drive aussi, mais avec quand même une production plus actuelle et tout.
Les deux sont très, très rétro dans l'esprit.
Ouais. Franchement, les musiques de jeu, on est quand même vraiment gâtés, je trouve, aujourd'hui, dans les jeux indés. Le niveau, il est toujours énorme, carrément. En fait. Tu joues à n'importe quel jeu, enfin pas n'importe quel jeu peut-être, mais enfin, ouais,
c'est assez incroyable. Un vrai soin apporté au BO.
Ouais, vraiment l'héritage est respecté, quoi.
Ah oui.
Eh bien, est-ce que c'est mon tour, peut-être.
C'est ton tour de nous passer de la musique.
Alors ok, je vais passer à un premier bloc de trois titres. Alors, il va y avoir un morceau tiré du jeu Blasphemous, si je prends l'accent français. Un jeu qui, génialissime, j'en parlerai un peu. Donc Blasphemous, sorti en 2019, Arpeggios en Ocre. Ocre, accent espagnol.
Ocre.
Incroyable aussi de ma part. De mes origines espagnoles en plus, voilà, c'est un peu... Donc Arpeggios en Ocre de Carlos Viola, donc des éditeurs espagnols, The Game Kitchen. Donc voilà, après j'enchaînerai avec deux morceaux tirés de la licence Castlevania. Symphony of the Night et Simon Quest Castlevania 2. Donc plus de détails tout à l'heure. Donc je vais lancer la musique sur ce Arpeggios en Ocre qui ressemble d'ailleurs, je trouve, un peu au morceau de Diablo qu'on a passé en tout premier. Je sais pas s'il y a vraiment une.
Oui, il y a un petit héritage.
Ouais, c'est pas le même genre de jeu, sachant que Blasphemous, c'est plutôt un jeu en 2D, plutôt plateforme. Mais bon, alors en tout cas, je trouve qu'il y a une petite résonance. Donc je vous laisse en juger par vous-même, bien évidemment.
Thank you.
Joyeux Halloween à tout le monde. Vous êtes bien sur Canal B, 94 MHz, mais nous on préfère dire 94 FM, car on est sur l'émission musique.fm, l'émission du label musique.exe, sur la musique de jeux vidéo, entre autres. On vient d'écouter une petite sélection que je vous ai concoctée en cette semaine sous le signe de l'horreur. On a donc écouté Blasphemous, Arpeggios and Ocre, Castlevania, Symphony of the Night, le morceau Requiem for the Gods de Michiru Yamane sur PS1, et ensuite l'énorme Bloody Tears tiré de Castlevania 2, Simon Quest, sorti en 87 sur NES, composé par Kenichi Matsubara.
Quel banger!
Énorme banger, grave, avec cette petite batterie punk rock. Et ce thème, s'il était joué à la guitare, ça serait vraiment du hard rock, quoi. Et donc, oui, il y a quelque chose qui lie ces trois morceaux, en fait. C'est qu'on est, en fait, dans un style de jeu. Comment on va commencer ça? Non, on va dire que Castlevania, en fait, c'est une franchise qui est hyper connue du jeu vidéo, qui s'est même déclinée en série animée, d'ailleurs, ces dernières années. C'est pas mal, d'ailleurs, j'avais maté sur Netflix et tout. Et donc, Castlevania, on joue un chasseur de vampires, en tout cas, dans le premier Castlevania sur NES, on joue un chasseur de vampires. Il y a la lignée du clan Belmont, donc dans chaque épisode, on va jouer quasiment un personnage différent. On va même jouer parfois même des vampires aussi. Et donc, on est dans un univers hyper inspiré de tout ce qui a été fait chez Universal au cinéma. Donc, on va vraiment croiser tout le bestiaire des momies, de créatures de Frankenstein, des morts-vivants et toutes sortes de créatures de ce type. Donc, on est en tout cas souvent un chasseur de vampires armé d'un fouet, donc le Vampire Killer. Et donc c'est un jeu qui a fait date parce qu'en fait, à partir de Symphony of the Night, donc la version sur PS1, qui est un jeu mythique, même un des jeux les plus chers sur PS1 aujourd'hui en collector, jeu original, il vaut, je sais pas, 1000 euros peut-être, j'en sais rien. Donc on incarne le fils de Dracula, Alucard, et ça a lancé en fait un peu un nouveau système de jeu dans les Castlevania qui s'est inspiré de Metroid aussi, une autre énorme franchise, où en gros la carte est énorme et il y a des zones du monde qu'on ne peut pas encore explorer tant qu'on n'a pas eu encore les bons objets, les bons pouvoirs qu'on acquiert souvent après avoir battu un boss dans tel endroit. Donc c'est un peu labyrinthique parfois, on doit traverser le niveau dans tous les sens, revenir sur ses pas, etc. souvent. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait on a la sensation que le niveau est énorme et voilà, qu'on n'est pas dans un platformer 2D où on doit juste avancer, tuer des monstres, avancer pour faire avancer l'histoire. Là, l'histoire, elle avance grâce à l'exploration.
En fait, on s'approprie un peu le château, quoi, en fonction des objets qu'on trouve à droite à gauche.
Exactement, c'est ça en fait. Et donc c'est un jeu qui a lancé ce terme, c'est le Metroidvania. Donc ça a carrément créé un style en fait. On n'est plus sur un platformer d'exploration, on est sur le Metroidvania, donc la contraction de Metroid et Castlevania. Et c'est un genre de jeu. Aujourd'hui, des Metroidvania, il y en a des tonnes. C'est dans les jeux indé, dans les jeux même. Triple A, qu'importe. Donc ça a lancé vraiment un énorme style. Et Blasphemous en fait partie. Blasphemous, c'est vraiment, moi je trouve, un jeu qui a réussi à transcender ça. En fait, c'est un jeu qui s'est énormément inspiré de Castlevania, que c'est un gros Metroidvania, mais qui a son ambiance unique, un peu ambiance Inquisition espagnole, avec un truc très 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 poisseux, très très dérangeant.
Oui,
on est vraiment dans le martyr, dans une peinture de Goya avec des...
La repentance,
d'ailleurs le personnage s'appelle le pénitent, donc il est toujours question de souffrance, de martyr, de se sacrifier pour le miracle qui est cette entité, on ne sait pas trop d'où elle vient, une espèce d'entité divine créée par les gens eux-mêmes qui ont envie d'être martyrs, enfin pour une cause, ça part un peu loin, mais le jeu a une ambiance extrêmement forte. Et qui fait que d'ailleurs elle dérange tellement qu'on a quand même envie d'y jouer juste pour ressentir ça. C'est assez étrange là.
Magnifique aussi le pixel art dans Blasphemous, c'est incroyable.
C'est un pixel art mais qui est incroyable aussi. Moi j'ai joué avec la voix espagnole. D'ailleurs, quand je regardais les quelques long plays sur YouTube et tout, tout le monde met le jeu en anglais, mais en espagnol c'est encore plus fort quoi. On y est vraiment. Donc Blasphemous, incroyable. Blasphemous 2, il y a une suite aussi. Qui est tout aussi belle. D'ailleurs, toi, t'avais joué à Blasphemous, Ben, mais t'as pas fini, je crois, tu m'avais dit.
J'ai joué au premier, et c'est très très dur, parce qu'il y a aussi cet héritage Dark Souls, donc avec une difficulté très très poussée, et à l'époque, je jouais pas encore au Dark Souls, tout ça, donc j'ai un peu laissé tomber.
Ouais, bon, si jamais tu le sens, parce que oui, il est super dur, Et sur Blasphemous, il y a des boss, t'es obligé de recommencer 50 fois en fait.
Bah ouais,
ouais. Tu dois apprendre les patterns par cœur des boss si tu veux réussir à les battre, à quel moment il faut sauter, à quel moment il faut se baisser, faire une roulade, etc. Et j'ai vraiment revécu les premières heures des jeux, genre le premier Castlevania sur NES que j'avais, qui était extrêmement difficile.
Ouais.
Et la différence, c'est que dans Castlevania, bah, quand tu mourrais, il fallait tout recommencer depuis le début. Blasphemous, au moins, tu recommençais un checkpoint. Mais ouais, j'ai ressenti en plus les frissons des premiers jeux où c'était juste très difficile, en fait. Et voilà, moi, c'est un jeu que je recommande absolument. Si on aime bien c'est ce genre de jeu, les Metroidvania.
Ouais.
Et je vais enchaîner avec trois ou quatre autres morceaux dont je vous parlerai un petit peu après, bien évidemment. Donc on reste toujours sur Canal B 94.fm, c'est parti. Thank you. On est sur Canal B, la radio curieuse, 94.fm, l'émission musique.fm. On s'est écouté un morceau du jeu Super Mario World, sorti en 90 sur Super NES. Un morceau du génial Grim Fandango, sorti en 98 chez LucasArts, légendaire, on en parlera dans d'autres émissions, j'espère évidemment. Et enfin, on a fini avec deux morceaux de Alien Trilogy sur PS1 et Saturn. Que des jeux qui traitent évidemment un peu de l'horreur. Enfin, Super Mario World, pas vraiment, mais on était sur une musique d'un niveau un peu horreur. Un
grand jeu d'horreur, Super Mario. Terrifiant.
Le plombier sanguinaire. Bah voilà, Grim Fandango, ça traite de la fête des morts, une ambiance mexicaine, c'est génialissime. De toute façon, LucasArts, voilà. Bon. On en parlera plus tard.
On passera d'autres morceaux.
Voilà. Mais... Alien Trilogy, un super jeu sur PS1, un shooter qui était basé donc sur la trilogie Alien. À l'époque, il n'y en avait encore que 3. Jeu qui a beaucoup marqué. Et évidemment, on ne va pas vous faire l'article. Ça parle d'Alien, de la franchise du cinéma. Donc voilà, c'était évidemment. Moi, quand je l'ai eu, ça me faisait bien flipper de me retrouver face à ces bêtes très dangereuses. Et on saluera Alien Isolation, qui est sorti aussi il y a quelques années, là, qui est un grand jeu d'horreur que je n'ai pas réussi à finir parce que ça me fait peur.
Oh non.
Il faut que je joue avec quelqu'un. Et on va aborder donc la dernière partie de l'émission qui va traiter un peu plutôt du monde actuel. On va aussi parler de l'actualité du label. Benjamin, on peut parler un petit peu du Stunfest peut-être. Donc, le Stunfest était le week-end dernier. Donc le festival des cultures du jeu vidéo à Rennes, porté par l'assaut 3Hit Combo. Donc c'était un festival sur 3 jours au 360, donc juste au-dessus de nous au moment où on en parle, parce que la Canal B c'est aussi dans le même bâtiment. Donc c'était le 360 qui a été investi par 3Hit Combo. Il y avait du rétro gaming, des jeux de danse, il y a eu des conférences qui étaient super intéressantes. Le thème du festival était assez politique cette année, donc c'était hyper cool. Moi je trouve qu'on ait pu aborder le jeu vidéo aussi sous des aspects, du syndicat avec l'affaire Ubisoft notamment, sur la
assez
presse,
militant,
assez militant et tout ça. C'était trop bien, il y avait des concerts, il y en a eu 2080 qui a joué le vendredi soir, qui est très suivi par le Stun, il a joué plusieurs fois. On a eu René Danger qui a joué samedi, c'était cool.
C'était vraiment trop bien.
Voilà, donc on l'invitera, un de ces quatre aussi, quand on aura le temps.
C'est prévu.
Enfin, quand lui aura le temps, parce qu'en fait, il était invité aujourd'hui, mais il ne pouvait pas, finalement. Et René Danger avec sa chiptune trad bretonne qui est trop cool. Et j'ai joué moi aussi car j'ai dû remplacer une artiste qui est annulée au dernier moment. Mais ça m'a bien fait plaisir de jouer au 4 bis. Donc
c'était trop bien, c'était le feu cette soirée.
Bah, merci. Donc voilà quoi, Stunfest, trop cool. C'est trop une chance d'avoir ça à Rennes en fait. Et
carrément.
Trop une chance d'avoir ça à Rennes. Et en plus, il y a eu des blind tests de musique de jeu. Et c'était trop bien, évidemment, nous qui sommes amateurs de musique de jeux vidéo, on était aussi ravis et servis.
Il y avait plein de développeurs indés aussi, il y avait tout ça, le Stunfest a permis à des développeurs de montrer un peu leur production, et il y avait des trucs super cool, on va pas rentrer plus dans les détails, mais essayer de mater un peu ce qui s'est fait à cette période.
Ouais, je crois qu'il y a du stream sur tout ça, sur YouTube,
exact.
Ou Twitch et tout ça. Et donc voilà, c'était trop cool, on espère que l'année prochaine on pourra assister à ce gros festival qui était trop cool. Et les actualités du label Musique.exe.
On finit avec la petite actualité du label Musique.exe.
Exactement.
Et avec la sortie.
Car le 31 octobre, donc le lendemain où cette émission sera donc sur les ondes, on sortira le morceau La Locomotive du groupe Cours de Récré qui sont de Toulouse.
Yes.
C'est un duo avec donc Stanislas qui est le membre originel du groupe en fait. C'est donc là c'est avec la chanteuse Chloé Croza sur le titre en tout cas. Et voilà, donc c'est une prochaine sortie du label. C'est-à-dire que là c'est juste un single. Il y a un clip qui sort aussi inspiré de Dance Dance Revolution. Donc,
ouais, il est trop bien.
Voilà. Et c'est un type comme. Perso, j'adore, donc t'es vraiment de la grosse synth pop, un peu à la Lio, avec des sons un peu bien 90s, trance, eurodance, très PS1 aussi évidemment. Et donc voilà, c'est évidemment des codes qui résonnent avec le label évidemment quoi. Donc on est très content de sortir ce single,
bien.
Grave. Et donc il y aura l'album qui sortira en 2026, on espère aussi les faire jouer à Rennes. Un de ces quatre. Et d'ailleurs, on va vous quitter avec ce titre car l'heure tourne et malheureusement, on peut pas en dire beaucoup plus, mais on se reverra de toute façon dans 2 semaines car l'émission est bimensuelle. Donc sur ce titre La Locomotive, on vous dit au revoir, on vous souhaite un bon Halloween Et voilà, Benjamin, un petit mot de la fin peut-être.
Et bah salut, à la prochaine, prenez soin de vous.
Yes, et continuez à jouer aux jeux vidéo, bien évidemment, à très très vite. Ciao. Voilà, cours de récré, la locomotive sur musique.exe.
Se plaindre alors.